Ton universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 22 octobre en direct de Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, situation chaotique au Parlement canadien où une fusillade s'est soldée par au moins deux morts, dont un policier. En Syrie, les renforts kurdes de l'Irak vers la ville assiégée de Kobané se font encore attendre. République démocratique du Congo, les manifestations contre la mission de l'ONU se sont poursuivies ce matin à Beni, où deux jeunes sont morts hier soir. Dossier Ebola, l'Union africaine veut évaluer la situation sur le terrain. Hommage à un géant du journalisme américain, Ben Bradlee, du Washington Post, décédé à 93 ans. Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord, le journal.
Une nouvelle fois, bonsoir au Canada. Des dizaines de coups de feu ont été entendus au Parlement à Ottawa après le meurtre d'un soldat en poste devant un monument situé à proximité du bâtiment. Un tireur a été abattu dans l'enceinte du Parlement, indique la police. Le centre de la capitale canadienne est bouclé alors que les autorités font la chasse aux suspects. La police d'Ottawa fait aussi état de coups de feu en d'autres endroits, dont un centre commercial de la zone. Le premier ministre Stephen Harper ainsi que les chefs de l'opposition sont indemnes et en lieu sûr. Ces incidents surviennent deux jours après la mort d'un soldat près de Montréal, dans une attaque menée par un homme converti à l'islam.
Et selon l'AFP, la défense aérienne américano-canadienne a été placée en état d'alerte pour être à même de répondre rapidement à tout incident aérien qui pourrait être lié à la fusillade survenue à Ottawa aujourd'hui. C'est ce qu'ont annoncé à l'AFP des responsables militaires américains.
Voilà, les Kurdes irakiens ont décidé d'envoyer des forces au secours des combattants kurdes qui défendent la ville syrienne de Kobané contre l'État islamique. Pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan critique la décision des États-Unis de larguer des armes et des munitions à ces combattants assiégés. Les précisions de Michel Joseph.
Réuni à Irbil, le Parlement du Kurdistan irakien a autorisé aujourd'hui l'envoi de combattants à Kobané. Aucune précision n'a été donnée quant au nombre de peshmergas qui seraient déployés à Kobané, ni quand. La Turquie a annoncé en début de semaine qu'elle laisserait passer les combattants kurdes irakiens en route pour Kobané. Aujourd'hui encore, les nuages de fumée noire montaient de cette ville, un des points de concentration des efforts internationaux contre les militants de l'État islamique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a critiqué la décision américaine de larguer des armes, des munitions et des médicaments aux combattants défendant Kobané, l'un des colis ayant apparemment été récupéré par des djihadistes. M. Erdogan a dit qu'il ne comprend pas pourquoi Kobané est si stratégique pour les États-Unis alors qu'il n'y a plus de civils et juste quelques 2000 combattants kurdes là-bas. Selon le porte-parole kurde syrien Idriss Nassan, les frappes aériennes de la coalition internationale ont été très utiles et les combattants kurdes ont pu repousser les djihadistes. Le Pentagone cherche à déterminer si un des colis d'armes et de munitions largués aux combattants kurdes défendant Kobané est plutôt tombé aux mains des djihadistes.
De violents combats ont de nouveau opposé dans la nuit de hier à aujourd'hui les combattants kurdes aux djihadistes qui ont tenté de progresser par le sud-est, l'est et le sud-ouest de Kobané, a indiqué un responsable local réfugié en Turquie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme avait indiqué mardi que l'État islamique acheminerait des renforts à cause des pertes subies dans les combats des derniers jours à Kobané.
Les élèves ont repris le chemin de l'école avec un mois de retard mercredi dans de nombreuses régions irakiennes où des déplacés fuyant l'offensive islamiste avaient trouvé refuge dans des établissements scolaires.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décidé de renforcer la présence policière à Jérusalem après une attaque terroriste. Entre-temps, à Gaza, une grève a paralysé le secteur public. Eddie Sango fait le point.
Le chef du gouvernement a donné l'ordre de renforcer la présence policière à Jérusalem après qu'un terroriste palestinien a écrasé 8 personnes et tué un bébé avec une voiture, a dit un porte-parole Ophir Gendelman sur Twitter. La CIA a été stoppée par un policier qui a ouvert le feu sur lui, a indiqué la police. Dans la bande de Gaza, les fonctionnaires du mouvement islamiste palestinien protestaient contre les non-paiements de leur salaire par le gouvernement d'union nationale. Ce mouvement, observé à l'appel du syndicat des fonctionnaires proches du Hamas, a paralysé les ministères, institutions et écoles relevant du groupe radical palestinien. Selon un responsable cité par l'AFP, quelques 43 000 fonctionnaires avaient observé la grève parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire depuis plusieurs mois. En juin, peu après la formation du gouvernement, les Qatar, grand allié du Hamas, avaient promis de payer durant 3 mois 19 des 23 à 30 millions d'euros qui représentent les salaires des fonctionnaires de Gaza. Mais Doha n'a encore effectué aucun versement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà, sur le continent, dans l'est de la République démocratique du Congo, 2 jeunes ont été tués par balle hier soir à Mbao, dans le territoire de Beni. Les manifestations contre la mission de l'ONU se sont poursuivies ce matin. Les jeunes de la région dénoncent l'inaction des casques bleus suite au massacre de plus de 80 personnes par des rebelles ougandais. Sur ce qui s'est passé, écoutons Omar Kavota, vice-président de la société civile du Nord Kivu à Beni.
Le soir, une patrouille mixte FRDC police a été interceptée par des jeunes. Lorsque l'armée a cherché à intervenir pour protéger les casques bleus, les jeunes ont réagi violemment en procédant par des jets de pierre. Un militaire est décédé et une vive altercation a suivi. 3 jeunes ont été tués par balle et 2 ont succombé. Ce matin, les manifestants en colère ont amené les corps à la résidence du chef de secteur. Ils ont saccagé sa maison. Également, un groupe de jeunes de Owicha, le chef-lieu du territoire de Beni, se sont joints à ceux de Mau pour aller envahir le quartier général de la mission des Nations Unies de Beni à Mavivi, donc à 15 km de Beniville. Et la police a dû intervenir à la salle des lacrymogènes. Là, on a déploré encore 7 blessés qui sont admis au centre de santé de Mavivi.
Voilà, c'était Omar Kavota, vice-président de la société civile du Nord Kivu à Beni. Et réagissant à ces violences depuis Goma, Martin Kobler, chef de la MONUSCO, a reconnu que la mission onusienne avait perdu une partie de la confiance de la population, mais que ça ne vaut pas la peine de prendre la MONUSCO comme bouc émissaire. Il a appelé la population à coopérer avec les casques bleus.
Le point sur l'épidémie d'Ebola. La présidente de l'Union africaine débutera demain une tournée pour évaluer la situation sur le terrain. Nkosazana Dlamini Zuma se rendra donc en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La Sierra Leone qui a enregistré de nouvelles violences liées à la lutte contre le virus, d'après l'AFP. Félix Epassi Zembrou nous en dit plus.
Ces heurts qui ont éclaté hier à Koïdo ont fait 2 morts et plusieurs blessés. Des jeunes armés de machettes se sont opposés à un prélèvement sanguin sur une femme de 90 ans, provoquant des affrontements avec les forces de sécurité. Pendant ce temps, le Rwanda exige des voyageurs s'étant rendus en Espagne ou aux États-Unis de communiquer leur état de santé aux autorités. Les passagers venant de Sierra Leone, du Libéria et de Guinée sont déjà interdits d'entrer au Rwanda, à l'exception des ressortissants rwandais qui sont placés en quarantaine. Même si toutes les mesures nécessaires sont prises, il faudra au moins 4 mois pour juguler l'épidémie, estime la Croix-Rouge. Rappelons que la fièvre hémorragique a fait 4555 morts selon l'OMS.
Le point sur l'épidémie avec Félix Yepassi Zombro. Et sachez aussi que les instituts américains de la santé annonce avoir commencé un essai clinique d'un vaccin expérimental canadien contre le virus Ebola. Le vaccin VSV-Zebov est le 2e à faire l'objet d'un essai clinique ici aux États-Unis.
Le procès Simone Gbagbo, reporté sine die à Abidjan, c'est ce qu'annonce le gouvernement ivoirien. Le retard serait notamment lié à une recomposition du jury, dont l'origine ethnique des membres proches de celle du président Alassane Ouattara pourrait causer des suspicions à l'heure du verdict, selon plusieurs sources judiciaires. Simone Gbagbo est accusée de crimes contre l'humanité, commis durant la crise post-électorale de 2010-2011, mais les autorités ivoiriennes ont refusé son transfert vers la Cour pénale internationale.
Burkina Faso, à présent, l'opposition accuse le président Blaise Compaoré de chercher à réviser la constitution pour rester au pouvoir 15 ans de plus. Le gouvernement a annoncé hier l'introduction d'un projet de loi à l'Assemblée nationale visant à modifier l'article 37 de la constitution, article limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels.
Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang-Nguema accorde une amnistie générale aux opposants en exil. Le décret présidentiel a été lu à la télévision nationale aujourd'hui.
Attentat à la bombe devant l'université du Caire en Égypte. Au moins 6 policiers et 3 passants ont été blessés. C'est ce qu'annonce la police à l'AFP. Depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi, les forces de sécurité font régulièrement l'objet d'attaques. Les islamistes disent agir en représailles à la répression contre les pro-Morsi. Notons que l'université est l'un des derniers carrés de la contestation contre le régime du président Abdel Fattah al-Sissi.
Un exploit médical, un homme avec une moelle épinière complètement sectionnée marche à nouveau. Et cela après avoir reçu une greffe des cellules de son nez. Jean-Roger Billon. Bon, bah écoutez, un petit problème technique. Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Guiriec et Bagassi Koura. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Et on nous dit que cette pièce sur la greffe des cellules est enfin arrivée. Donc nous l'écoutons.
Il s'agit de Darek Fedika, un Bulgare qui était paralysé depuis 4 ans après une attaque au couteau. Des scientifiques britanniques et polonais ont prélevé des cellules de son nez, les ont greffées dans son dos pour régénérer sa moelle épinière. Le résultat est époustouflant. Darek Fedika peut à nouveau marcher avec un déambulateur et même conduire une voiture. Ce patient est à ce jour la première personne au monde à se rétablir d'une rupture totale des nerfs de la colonne vertébrale. Les médecins polonais sont certes ravis, mais disent que c'est la première étape d'un long cheminement. L'intervention chirurgicale menée à Wrocław en Pologne doit être considérée d'après les médecins et experts médicaux avec prudence et nécessite d'autres confirmations. Un appel pour recruter des malades du même type est lancé à l'échelle mondiale d'après l'AFP via Internet au centre de réhabilitation Axon de Wrocław où M. Fedika est traité et à l'Institut britannique de l'University College de Londres, qui a collaboré avec les Polonais.
Voilà, c'est tout donc.
Le Togo se prépare pour des élections présidentielles au premier trimestre de l'année 2015, comme à la veille de chaque scrutin pour la magistrature suprême. L'union de l'opposition s'invite une fois encore dans les débats. Pour certaines formations politiques, le salut ne viendrait que d'une candidature unique. Reportage à Lomé de Kayi Lawson.
Dans les deux grands regroupements de l'opposition, les leaders s'évertuent à trouver un candidat unique. La coalition Arc-en-Ciel et le collectif Sauvons le Togo se sont retrouvés en conclave pendant 2 mois pour mutualiser leurs énergies pour des causes communes. Éric Dupuy, chargé de communication de l'Alliance nationale pour le changement ANC, est membre du collectif Sauvons le Togo.
Comment faire que toute l'opposition se réunisse pour, d'une part, exiger les réformes institutionnelles et constitutionnelles, exiger les transparences des élections. Donc, si demain on obtient la transparence des élections, on mettra en place ce qu'on appelle un état de droit. Et nous pensons que très 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 prochainement, nous serions en mesure d'annoncer le nom du candidat unique de l'opposition qui, à mon avis, sera choisi de manière totalement consensuelle.
Une candidature unique est une stratégie pour maximiser les chances pour l'alternance, reconnaît l'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, mais Obu estime que la première étape pour aller vers l'unicité d'une candidature est l'élaboration d'un programme commun de société. Agbeome Kodjo, président de Obu.
Vous voulez que de toute façon j'aie acheté un produit sans savoir quelle est la thérapie du monde qu'apportera ce produit? On me demande d'aller acheter par exemple Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce que Jean-Pierre Fabre va faire pour le peuple togolais, pour le monde scolaire, le monde agricole? Quelle est sa vision politique? Je ne la connais pas. Et puis donc je prends un bulletin et je dis oui, Jean-Pierre Fabre, et je vais mettre un bulletin pour lui. Quel est le programme qu'il veut décliner? Avec qui il veut décliner ce programme? Nous le verrons. Parce que de tout temps, pourquoi vous voulez qu'on choisisse le candidat avant de choisir le programme?
Sur le programme commun, les tractations sont en cours, dit-on, à la coalition Arc-en-Ciel. Docteur Georges Guesson, président du Parti Santé du Peuple, membre de la coalition Arc-en-Ciel.
Tous ceux qui disent qu'il faut un programme avant la candidature unique apportent de l'eau à notre moulin. Nous ne faisons pas de l'improvisation, mais nous avons déjà un programme. Et ce programme est le fruit d'une vision commune. qui constituera la trame de notre action pour les présidentielles de 2015. Mais ce programme, nous allons l'avoir de façon définitive avant l'élection de notre candidat. C'est vrai que si on veut prendre l'opposition dans tout son ensemble, cela peut paraître un peu difficile. Mais je crois qu'au niveau de l'opposition, si on l'entend par CST, coalition arc-en-ciel, nous aurons un candidat unique.
Notons que deux personnalités ont déjà déclaré leur candidature pour la présidentielle de 2015. Il s'agit de Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement et d'Alberto Olimpio, président du parti des Togolais. Kailosson Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Voilà, les commentaires n'en finissent pas à Ouagadougou, 24 heures après l'annonce par le gouvernement de recourir à un référendum pour faire modifier la constitution. Le but, permettre à Blaise Compaoré de se représenter à la présidentielle l'année prochaine. Le débat constitutionnel fait rage sur le continent, de la RDC au Burundi en passant par le Rwanda. Changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, est-il un mal africain? Eh bien, Nicolas Pino a posé la question à Serge Théophile Balima, professeur à l'université de Ouagadougou.
Ça nous inspire plutôt des inquiétudes parce que, étant entendu que les deux forces en présence sont extrêmement mobilisées, extrêmement braquées, ben, il y a un risque qu'il y ait des affrontements. Et c'est ça qui inquiète à la fois l'opinion nationale et l'opinion internationale.
Depuis l'indépendance et jadis la Haute-Volta, la transition politique ne s'est jamais faite pacifiquement au Burkina Faso.
Bon, disons que oui, on peut dire comme ça, parce que chaque fois, il y a eu une irruption de l'armée pour assurer les transitions. On en a eu en 1966, on en a eu en 1974, 1980, 1982, 1983 et 1987 avec le président actuel, Blaise Compaoré. De façon raisonnable, on est en droit de s'inquiéter de façon légitime, parce qu'on n'en sait jamais.
S'agit-il d'un mal africain modifier la constitution pour rester au pouvoir?
Oh, je pense qu'on peut le dire, d'autant que cette tentation n'est pas spécifiquement burkinabé, puisque nous venons de vivre un cas spécifique, mais il y a aussi d'autres pays qui ont les mêmes tentations, que ce soit le Rwanda, que ce soit les deux Congo, que ce soit l'Algérie, que ce soit d'ailleurs les pays arabes de l'Afrique du Nord sont toujours tentés par la colonisation au pouvoir. Et on a connu aussi d'autres régimes, comme des régimes même proches de nous, comme la Côte d'Ivoire, où en réalité il est resté si longtemps. Et cette tentation a existé et existe toujours au niveau de pas mal de chefs d'État qui, selon les opportunités, expriment franchement leur intention de demeurer au pouvoir. Donc on peut dire que c'est un syndrome africain.
Est-ce que selon vous, il faudrait créer un statut d'ex-chef d'État en Afrique? Certains estiment que cela faciliterait la transition politique.
Je ne le crois pas du tout parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qui retient les chefs d'État. Je pense que beaucoup de chefs d'État veulent simplement conserver, consommer abusivement le pouvoir. Ce n'est pas parce que les textes ne donnent pas assez de garanties, mais c'est simplement parce qu'ils veulent demeurer simplement au pouvoir jusqu'à leur mort.
Professeur Serge Théophile Balima, joint à Ouagadougou.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
De meilleures données ont révélé 1 million de cas supplémentaires de tuberculose à travers le monde que ne l'avaient montré les estimations précédentes. C'est ce qu'affirme le rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé sur la tuberculose. Ce document précise que 9 millions de personnes ont développé la tuberculose en 2013 et qu'1,5 million d'entre elles en sont mortes, dont 360 000 séropositifs.
Ajoutons que toutefois, le taux de la mortalité due à la maladie continue de baisser, ainsi que le nombre de malades, a déclaré le docteur Mario Raviglione, directeur du département Alta à la tuberculose de l'OMS dans une interview avec La Voix de l'Amérique. Il a évoqué des progrès en Afrique subsaharienne.
Elle est en train de descendre aussi dans une manière qui est, je dirais, intermédiaire entre les Amériques et la région du Pacifique occidental et le reste du planète. C'est-à-dire qu'il y a une réduction importante parce que en Afrique, on avait une augmentation très importante dans les années 90. Et après, le maximum qui a été, je dirais, achevé vers 2004-2005, on a vu maintenant une réduction qui dure à partir de cette période-là jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est bien. Et c'est évidemment accompagné par la réduction du VIH. C'est en fait la conséquence de la réduction du VIH en Afrique.
Et du côté des traitements, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés avec les variétés résistantes, notamment aux antibiotiques.
Alors là, il faut distinguer. Pour ce qui concerne le traitement de la tuberculose, on dirait normale, c'est-à-dire la tuberculose qui n'est pas résistante aux médicaments, on a toujours un taux de guérison qui est très élevé. À niveau mondial, sur un total de à peu près 6 millions de cas qui sont officiellement notifiés, et dont on mesure la guérison plus ou moins dans la moitié de ces cas-là, parce qu'ils sont les cas crachats positifs et bactériologiquement plus faciles à monitorer. Alors là, on voit un taux de guérison qui est de 86% cette année. Et ça, c'est plus ou moins le même qu'on a eu dans les dernières 4 ou 5 années, avec 86-87%. C'est bien. Ce qu'on a constaté, c'est que le taux de guérison, le pourcentage des personnes guéries, quand ils ont une forme de tuberculose qu'on appelle multirésistant, c'est-à-dire qui est résistant au moins aux deux antibiotiques les plus importants, l'isoniazide et la rifampicine, alors là, on a un problème. Et le problème est que le taux de guérison n'arrive pas à 50%, on est à plus ou moins à 48% pour ce qu'on sait aujourd'hui. Et ça signifie évidemment que la possibilité de guérir les malades affectés par la multirésistance est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée. La durée du traitement n'est pas 6 mois, mais elle est 18, 24 mois. Il y a un taux d'échec qui est élevé, il y a une mortalité qui est élevée.
Voilà, docteur Mario Raviglione, directeur du département Alta à la tuberculose de l'OMS, qui était interrogé par Camille Gros-Didier.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le doute après l'accord annoncé par le Nigeria avec Boko Haram. Y aura-t-il un cessez-le-feu? Les collégiennes de Chibok seront-elles vraiment libérées? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Un des géants du journalisme américain n'est plus. Ben Bradley, l'ancien rédacteur en chef du Washington Post, avait supervisé la couverture du scandale du Watergate qui avait abouti à la démission du président Richard Nixon en 1974. Il est décédé hier de causes naturelles chez lui à Washington à l'âge de 93 ans. Lionel Gaïma revient sur la carrière de cette grande figure du journalisme.
C'est au début des années 70 que Ben Bradley a commencé à se faire remarquer aux États-Unis, d'abord en tant que fer de lance d'une action judiciaire intentée par le Post et le New York Times qui a fini à la Cour suprême et permis aux deux grands quotidiens de continuer de publier les Pentagon Papers. Il s'agissait des documents secrets du gouvernement sur les manœuvres politiques qui ont conduit à l'engagement américain au Vietnam. Bradley a ensuite supervisé l'enquête du Washington Post sur le cambriolage du quartier général du Comité national du Parti démocrate au Watergate, ici à Washington. Sa collaboration avec les très jeunes reporters d'investigation Bob Woodward et Carl Bernstein se traduira par la chute du président Nixon et la consécration du Post comme l'un des plus grands quotidiens du monde. Son ex-patron, l'ancien directeur de la publication, Donald Graham, a dit de Bradley qu'il était le meilleur rédacteur en chef américain de son temps. La mère de Donald, Catherine, était alors directrice de la publication. On lui reconnaît aussi le courage d'avoir apporté un soutien inébranlable à son rédacteur en chef face à la sensibilité du dossier du Watergate et à ses possibles retombées politiques. Le rôle de Ben Bradley dans la couverture du Watergate a été immortalisé dans le film « All the President's Men »,« Tous les hommes du président » par l'acteur Jason Roberts et aux côtés de Robert Redford et Dustin Hoffman, respectivement dans la peau de Woodward et Bernstein. Après sa retraite, Ben Bradley a écrit un mémoire intitulé « A Good Life » en 1995 et l'année dernière, le président Barack Obama lui a décerné la médaille de la liberté. Dans un communiqué publié par la Maison-Blanche, M. Obama a qualifié de M. Bradley de vrai journaliste qui était convaincu que le journalisme est un bien public d'importance vitale pour notre démocratie.
Alors, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, c'est l'heure des sports et nous accueillons Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Bagassi.
On commence par du football, du football féminin, demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir en Namibie.
Eh oui Bagassi, en premier match, le Nigeria a défait l'Afrique du Sud 2-1. Deux buts d'Oshoala pour les Nigérianes aux 38e et 45e minutes. Auquel a répondu Refilo Ejene pour l'unique but sud-africain à la 67e minute. Et l'autre demi-finale se joue ce soir également, donc entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il faut dire que les vainqueurs de ce soir se qualifient automatiquement pour la phase finale de la Coupe du Monde Dames de 2015. Une autre place sera en jeu pour ce Mondial Dames et ce sera lors du match pour la troisième place à Windhoek.
Et toujours en Afrique, les joueurs de l'AS Sétif et leur staff s'envoleront ce vendredi pour Kinshasa.
Et c'est dans le cadre de la finale aller de la Ligue des Champions dimanche sur le terrain de l'AS Vita Club. Selon Foot Africa 265, l'équipe est en pleine préparation depuis quelques jours à l'École nationale des sports olympiques. Tous les moyens sont mis en œuvre pour que l'AS ne rate pas son match à Kinshasa contre l'AS Vita Club, a indiqué Heredine Madoui, le coach de la formation algérienne. Le club congolais se prépare au stade Tata Raphaël sous la direction de son entraîneur Florent Ibengue.
Querelle entre le président de l'UEFA, Michel Platini, et la CAF au sujet de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 au Maroc.
Eh oui, Bagassi, Platini exige des excuses de la CAF, accusant la Confédération continentale de lui avoir prêté des propos qu'il n'a pas tenus. Le président de l'UEFA a fourni une transcription d'une interview accordé le week-end dernier, dans laquelle il a dit que les inquiétudes du Maroc concernant l'organisation de la CAN 2015 en temps d'épidémie d'Ebola sont fondées, mais que la décision concernant les dates de cette compétition relève exclusivement de la CAF. Dans une déclaration publiée, la CAF a accusé Platini d'ingérence dans ses affaires internes. À son tour, Platini a adressé une vigoureuse lettre au président de la CAF exigeant des excuses. Il faut dire que le Maroc ne veut pas organiser la CAN aux dates du 17 janvier et 8 février 2015 du fait de l'Ebola. D'autres pays approchés par la CAN, la CAF ont décliné l'offre.
Et en football européen, suite de la troisième journée de la Ligue des Champions. Et
dans le groupe A, on a Atlético Madrid contre Malmo FF. Olympiakos reçoit la Juventus Turin. Dans le groupe B, Liverpool opposé au Real Madrid. Ludogorets, Razgrad de Bulgarie contre FC Bâle. Dans le groupe C, le duel entre Monaco et Benfica. Il y a également Bayer Leverkusen contre Zenit Saint-Pétersbourg. Et dans le groupe D, Anderlecht reçoit Arsenal. Galatasaray joue contre Borussia Dortmund. Hier, Chelsea a infligé un carton à Maribor 6-0. Shakhtar Donetsk a fit mieux, battant Bâle par 7-0. Le Bayern Munich a laminé Rome 7-1 et étant à Rome, le club bavarois a rendu visite au pape François, un grand amateur de foot qui l'a félicité pour sa victoire contre l'équipe locale. Le Bayern a promis au pape 1 million d'euros pour ses œuvres caritatives.
Et enfin, le numéro 1 mondial du tennis, Novak Djokovic, est un homme au comble.
Tout à fait, Bagassi, sa femme Yelena et lui ont eu leur premier enfant, un garçon prénommé Stéphane, né hier à Nice en France. Le couple résident à Monaco. Djokovic a indiqué sur son site internet que la naissance s'est passée dans les meilleures conditions possibles.
Voilà, merci Timothée.
Dichak Mounia. Aïe. Affaire Chombo. Keba. Chombo. Jumbo. Affaire Chombo. Il y a trop de chobos, des gauches à droite, des téléphones de devenir un vrai bobo. Les hommes et les femmes, c'est mon au jour, le jour, mon négro.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Diriek.
Et Bagassi Koura.
À demain.
À demain.
De faire la cour.
Après c'est devenu, il faut avoir une belle bagnole. Et maintenant, il faut encore un bon téléphone. Et là, le monde a changé. Et là, les téléphones a tout niqué. Et là, ça a tout gâté. Et là, les couples vont gâter.